Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
10 milliards d'euros, c'est le montant de l'investissement recommandé à l'Élysée pour l'intelligence artificielle dans l'administration publique. À siècle digital, ça nous a poussé à nous demander quelle est la place de l'IA dans nos services publics. Est-ce que c'est déjà utilisé? Si oui, depuis quand? Et pour effectuer quelles tâches exactement? Depuis l'émergence de ChatGPT en novembre 2022, le monde entier s'est engagé dans une course à l'intelligence artificielle, générative notamment. Et quand je dis le monde entier, je ne parle pas que des entreprises. Les gouvernements, eux aussi, se penchent sur le sujet. Il faut dire que le potentiel est énorme. Plusieurs études ont par exemple montré que l'IA générative peut faire augmenter la productivité dans certains métiers de près de 40%. Optimisation des réponses aux administrés, codage informatique, gain de temps. C'est certain, l'IA pourrait apporter bon nombre d'avantages à l'administration. Mais de l'autre côté, certains fonctionnaires et syndicats craignent déjà que, à terme, la technologie remplace l'homme. D'autres pointent les enjeux de souveraineté et appellent à développer et utiliser des systèmes français. Quelques-uns craignent encore que l'arrivée de l'IA augmente les risques cyber, parce que les données traitées dans nos administrations peuvent se révéler sensibles, comme des données de santé par exemple. Bref, entre crainte et progrès, un élément ressort. L'intelligence artificielle fait malgré tout son petit bout de chemin dans les entrailles du service public. Alors on va démystifier un peu tout ça et faire le point avec Émile Marzolf, journaliste pour Acteurs Publics. C'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Émile.
Bonjour.
Émile, tu es journaliste numérique et action publique chez Acteurs Publics. On va le voir, mais c'est un poste qui t'a amené à traiter plusieurs fois d'intelligence artificielle. Et ça tombe bien parce qu'on va parler ensemble IA et administration publique notamment. Alors première question, l'IA dans l'administration, selon toi, c'est une bonne, une mauvaise idée, une fausse bonne idée?
Alors c'est difficile de répondre. En gros, il y a des endroits, il y a des cas d'usage, typiquement on va en parler de cas d'usage, mais il y a des endroits où ça peut être pertinent et ça peut apporter des gains. Alors souvent les arguments qui sont donnés c'est du gain de temps, sur des tâches un peu rébarbatives, etc., ce qui existe. Mais là où je pense qu'il y a pas mal de valeur ajoutée aussi, c'est quand c'est des tâches qui n'étaient pas vraiment faisables par des humains avant et qu'on fait de manière automatisée. On parlera peut-être, mais il y a par exemple le cas de la pseudonymisation des décisions de justice.
Ok.
De l'arrivée de l'open data où là, c'était quelque chose de nouveau. Il fallait réagir et en fait, à moins de recruter des tonnes de personnes pour le faire à la main, il y avait que l'IA pour le faire.
Ok, bon, on va en parler justement des cas d'usage là. Quelques mots là-dessus. L'IA, c'est déjà utilisé dans l'administration publique, non? Pour y faire quoi exactement?
Ouais, ça fait bien longtemps. Il y a déjà depuis au moins 2013, mais où les impôts s'étaient lancés dans le. Ouais, alors après c'est des techniques intelligence artificielle. On peut mettre un peu tout dedans, mais
c'est vrai.
Des développements d'algorithmes un peu auto-apprenants. Sur des bases de données, donc là, la DGFiP, les impôts, c'était directement pour la détection de la fraude fiscale. Après, ils ont fait plus tard le foncier innovant qu'on connaît pas mal avec la détection des piscines. Donc ça, c'est plutôt combiné avec de l'analyse d'image. Mais oui, c'est pas nouveau. Il y a eu un déclic aussi avec le rapport Villani en 2018, où il y avait eu donc des financements pour mener des expérimentations dans le service public. Tout n'avait pas été jusqu'au bout. Il y avait quand même des retours d'expérience assez prometteurs, mais on en reparlera aussi. Il y a pas mal de freins, mine de rien, ça a un coût. Il faut des données, il faut des compétences aussi. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça.
Et justement, ça va me permettre de faire la passerelle là avec les enjeux avant de revenir sur des usages et des expérimentations qu'il peut déjà y avoir. Parlons un peu des enjeux quand on parle administration publique, on parle de services, de données essentielles, sensibles parfois. Est-ce que l'un des enjeux principaux finalement derrière cette question de l'IA dans l'administration, c'est pas un enjeu de cybersécurité?
Alors en tout cas, dans ce qu'on peut voir avec l'IA générative, sur le déploiement sur des infrastructures souveraines, etc. de l'État, la vague qu'il y a eu avec ChatGPT, c'est que les administrations, les agences s'en sont emparées assez rapidement, un peu comme tout le monde, pour tester, mais en effet, ils pouvaient pas ensuite c'est à l'étape suivante, se dire on l'intègre dans nos processus de travail, etc. Ça pouvait pas vraiment se faire puisque en effet après on ne sait pas ce qu'on envoie, on nourrit la bête ChatGPT avec des données qu'on lui injecte, et donc ça les agents peuvent pas le faire. Mais oui, donc la question aussi de développer de l'IA aussi en interne de l'administration, alors pas que repart pas de zéro, hein, il s'appuie aussi sur des choses existantes, de l'open source aussi notamment, mais c'est d'avoir une maîtrise de ce qu'on fait des données et avec quelles données aussi on nourrit le modèle.
Donc il y a quand même, oui, des gros enjeux de sécurité. J'ai aussi dans ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à des enjeux éventuellement de souveraineté. Et puis avant, tu as parlé aussi, quand on a rapidement évoqué les cas d'usage, ça m'a aussi fait penser à des enjeux peut-être d'efficacité ou voire même de réduction des coûts finalement, parce que plutôt que de faire un travail par, je ne sais pas, 10 employés, 10 humains, on va le faire par une IA.
Alors ça, clairement, c'est un peu la ligne rouge qui transparaît dans le discours, en tout cas politique, et aussi des administrations qui s'engagent dans l'IA. C'est qu'évidemment, alors elles vont pas dire le contraire, mais elles promettent que c'est pas pour supprimer des emplois. Il y en a quand même eu, parce que, par exemple, dans le cadre du Fonds pour la transformation de l'action publique, donc c'est un fonds de financement d'investissement dans des projets innovants de l'État, sauf que pour décrocher les financements, il fallait faire valoir en gros les gains que ça allait apporter, et parmi les gains notamment des suppressions d'emplois ou des redéploiements d'agents. Et donc alors ça c'était le positionnement initial du fonds, mais ça a évolué un petit peu petit à petit parce que les administrations étaient finalement très réticentes à ça, même si en parallèle on leur demande de supprimer des emplois, etc. Ça pouvait pas passer en fait pour imposer ça ensuite aux agents. Et donc en fait, ce qu'elles ont obtenu petit à petit de ce fonds-là, c'est qu'en fait, plutôt que de dire on va supprimer 2000 emplois, on va redéployer l'équivalent de 2000 équivalents temps plein sur d'autres tâches. Donc c'est plutôt des mesures d'efficacité que de suppression d'emplois.
Ok, oui, donc on est plus sur une question d'efficacité que réduction des coûts. J'aimerais aussi savoir si pour toi, il n'y a pas une question de... C'est peut-être pas encore mesurable, mais de déshumanisation peut-être des services publics. C'est un sujet qui revient beaucoup sur la table ces dernières années, on a de plus en plus de services publics qui ont fermé. Et beaucoup disaient, oui, mais du coup, on a encore moins de contacts. Ça fait, d'un côté, on a des services publics qui ferment. De l'autre, on a des services qui se numérisent de plus en plus. On a de moins en moins de contacts, finalement, avec des agents, avec des êtres humains. Est-ce que l'IA ne va pas accélérer ce phénomène et créer comme un effet de déshumanisation?
C'est ce que je disais aussi dans la ligne rouge là que porte en tout cas le gouvernement et l'administration dans son discours, c'est que pour l'instant, surtout sur l'IA générative, je pense parce que c'est arrivé tellement rapidement que ça a suscité plein de craintes plus que l'IA classique, on va dire, c'est que pour l'instant, il n'est pas question du tout de mettre par exemple des chatbots améliorés directement en contact des usagers. Alors, il y en a certains qui y réfléchissent, etc. Mais pour l'instant, toutes les premières expérimentations, c'est pas ça. C'est pour, en effet, assister l'agent dans sa tâche. Et donc, en termes de réduction des... On parlait de réduction des coûts. C'est pas forcément réduire des coûts. Il va peut-être pouvoir faire plus en autant de temps ou un peu moins de temps et pour faire autre chose. Alors ça, c'est un argument qui reste aussi à... C'est-à-dire qu'il doit se vérifier. Hein, parce qu'il y a des chercheurs qui craignent, par exemple, que si, par exemple, on répond... Un agent peut répondre à 15 mails alors qu'avant, il pouvait en répondre que 5 dans le même temps. Est-ce que dans le temps qu'il a dégagé, il va en effet se consacrer à la relation, à du contact humain, à de l'accompagnement humain d'usagers, ou est-ce qu'il va juste traiter deux fois plus de mails?
Ah oui, je vois.
C'est là qui se pose. Est-ce qu'on augmente juste la productivité pour augmenter la productivité, ou est-ce qu'on recentre vraiment sur des tâches, les fameuses tâches à valeur ajoutée? Et donc ça, c'est quelque chose qui reste à voir.
Pour terminer sur cette question des enjeux, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Il me semble que tu y as fait un peu référence, une question des enjeux de formation. Parce que ça m'étonnerait que tous les travailleurs de notre administration soient formés à l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Non, alors je sais qu'il y a des réflexions. Ils ont créé un campus du numérique public qui est logé à la direction interministérielle du numérique, qui en gros a vocation à créer des formations à la fois pour les développeurs, les data scientists, etc. Enfin, les gens du numérique, quoi. Mais aussi pour les agents dans leur ensemble, pour un peu les acculturer au numérique au sens large, à la donnée, etc. Et donc il y a des parcours, par exemple avec la plateforme Pix qui est utilisée par les, alors c'est pas les mêmes modules évidemment, mais qui est utilisée par exemple par les collégiens, etc. pour pour avoir la certification de compétences numériques. Donc ils sont en train de réfléchir à tout ça. Ils forment aussi ils ont commencé par le haut de la pyramide. Ils forment d'abord les directeurs d'administration centrale pour qu'eux-mêmes comprennent les enjeux, typiquement sur l'IA, de se dire que c'est pas magique et qu'il faut des données pour entraîner, réentraîner les modèles, etc. Qu'il faut des compétences aussi d'ailleurs, qu'il faut recruter, etc. Donc il y a un enjeu de formation. Pour l'instant, moi, des discussions que j'ai, c'est pas encore très avancé. En fait, pour l'instant, les administrations, elles sont un peu en train de regarder les cas d'usage, qu'est-ce qu'on pourrait faire.
Elles tâtent le terrain.
Avant de se poser la question de comment on va accompagner les agents dans la prise en main de ces outils-là, il y en a qui ont bloqué l'accès à des ChatGPT et autres. Il y en a d'autres qui sont un peu plus, qui donnent pas forcément de consignes. Mais comme me disait un fonctionnaire récemment, c'est que quand on donne pas de consignes, c'est que par définition, on interdit un petit peu l'usage de ChatGPT.
Ok, mais tu disais que depuis à peu près 2013, l'intelligence artificielle était dans une certaine mesure utilisée dans l'administration. Est-ce que avec l'émergence en novembre 2022 de ChatGPT, est-ce qu'on a vu une explosion de l'IA dans l'administration ou une explosion de certains cas d'usage?
Je saurais pas dire. En fait, j'ai pas mal d'échanges. Il y a des agents qui disent qu'ils l'utilisent un peu comme tout le monde pour rédiger des notes, des choses comme ça. Mais il y en a aussi plein qui soit parce qu'il y a des consignes internes, comme je le disais, soit ils attendent de voir comment ça évolue ou qu'on leur mette un outil maison certifié, parce qu'il y a beaucoup de prudence quand même chez les agents publics, parce que leur environnement de travail numérique, il est assez contraint, assez restreint, ils peuvent pas utiliser n'importe quoi. C'est d'ailleurs un problème pour les professionnels numériques quand ils rejoignent l'État, ils sont un petit peu frustrés parce qu'ils peuvent pas louer des crédits cloud, etc., un peu à la demande.
Oui, beaucoup de restrictions.
Ils sont forcément limités. Alors il y a des raisons pour ça déjà, parce que pour de l'argent et pour pas faire n'importe quoi avec les outils. Et donc c'est difficile à évaluer la part de shadow AI comme on dit. Je ne saurais pas dire, mais elle existe. Il y a des agents qui disent l'utiliser. Il y a des managers qui disent que leurs agents l'utilisent.
Mais ça a pas, il y a pas une différence. Depuis justement l'explosion de ChatGPT, pour toi, de ton point de vue de journaliste spécialisé, on va dire, tu n'as pas vu, perçu de différence particulière?
Non, par contre, la différence, c'est que ça a un petit peu poussé sans doute les DSI, etc., à très rapidement justement aller regarder les cas d'usage, aller faire des expérimentations, parce que pour une fois, et c'était la révolution de ChatGPT, c'est que comme ça a démocratisé l'IA en la rendant accessible à n'importe qui en langage naturel, les agents de base peuvent s'en servir eux-mêmes, alors qu'avant c'était la DSI qui travaillait sur un outil, le mettait éventuellement à disposition, et puis ensuite fallait que ça réponde aux usages. Ça marchait pas de manière aussi cette chronologie exactement. Il y avait de la co-construction sans doute, j'espère, qui tâtait les usages avant de créer un outil, mais en gros voilà, il y a eu cette dynamique là où maintenant ça vient aussi un peu plus des agents, et comme il y a un peu un sentiment d'alarme, ils se sont dit il faut que nous-mêmes on aille proposer des outils, parce que sinon ils vont aller de toute façon sur ChatGPT. Même si on le bloque sur l'ordinateur portable, là j'ai des témoignages, ou même si on le bloque sur l'accès au réseau, sur le réseau, on va dire, du ministère, etc., rien ne les empêche d'utiliser un téléphone portable perso.
Tout à fait. Parlons un petit peu des cas d'usage, revenons un peu dessus. Il y a eu une initiative, notamment lancée en octobre 2023 par le gouvernement, pour tester l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'on a déjà des retours?
Alors cette expérimentation-là, elle a commencé en octobre. Il y a eu des premiers tests quand même pendant l'été. Mais là, oui, on a eu déjà des résultats. J'ai eu récemment justement le responsable de cette expérimentation-là à la direction interministérielle de la transformation publique. Et donc, ils vont même généraliser. Enfin, ils sont persuadés que ça va être un outil qui va être pertinent, même si on va en reparler. Mais le cas d'usage, il est quand même très limité. Il est pas, c'est pas des révolutions. Hein. En gros, l'idée, c'est de permettre à des agents, donc la plateforme Service Public Plus, c'est un peu le TripAdvisor du service public, les avis Google, ça permet aux gens de partager une expérience bonne ou mauvaise, très souvent mauvaise, et donc c'est des expériences un peu générales, anonymes, généralement l'usager parle d'un cas un peu personnel, mais il peut pas rentrer dans les détails de son dossier, etc., et donc ça, il y a des agents de différents services publics, et l'agence des titres sécurisés, les CAF, l'assurance maladie, etc., qui peuvent répondre sur cette plateforme aux questions des usagers. Ça existe depuis au moins 2 ans. Et donc là, l'idée, c'était de leur mettre un outil d'aide à la rédaction à ces agents-là pour qu'ils puissent apporter une réponse aux expériences des usagers plus facilement. Et donc, ouais, il y a des résultats positifs déjà, on va dire. On parlait de productivité, de gain de temps. Typiquement, là, le délai de réponse, il a été divisé par 5. C'est
ah
de
oui,
19
quand
jours
même.
à 3 jours. Il y a 1700 agents à peu près qui l'utilisent. Alors, peut-être que ça a augmenté depuis, parce que c'est sur la base du volontariat. En fait, n'importe qui peut rejoindre l'expérimentation. Puis, il y a aussi les agents qui l'utilisent trouvent ça, eux, utile, notamment pour faire varier un peu les formulations, des choses comme ça, en fait. C'est pas mal sur le côté écriture, style aussi. Et puis après, ils agrémentent ça avec ils avaient déjà des scripts, en fait, des scripts, des modèles types de réponses. Donc, c'est aussi pour ça que le cas d'usage était assez simple d'accès, c'est que c'est pas des réponses hyper précises, hyper pointues, où ça demande d'aller vérifier le dossier personnel de l'usager. D'ailleurs, ils peuvent pas puisque c'est anonyme. Et donc, c'est des réponses assez générales à des questions assez générales. Donc, c'est pour ça que c'était un bon premier cas d'usage, mais c'est pas ça qui a transformé l'état.
Mais des premiers résultats positifs quand même, c'est bon de le noter. Est-ce que c'est peut-être pour toi l'expérimentation la plus marquante de tout ce qui a été lancé par le gouvernement en termes d'initiative?
Non, parce que c'est la plus médiatisée, parce qu'il y a le ministre qui en a parlé, etc. Il y a eu des déplacements. Et je sais pas pourquoi ils ont choisi celle-là en particulier. Je pense parce qu'elle était vraiment facile. Il y
Oui,
avait
j'allais
pas
dire,
de
c'est
données
parce que c'était simple.
sensibles. Il y avait pas de données sensibles. Il y avait déjà une plateforme en place en fait, où avec un éditeur de réponses, etc. Donc il suffisait. Enfin, d'ailleurs, l'IA, elle s'est intégrée à ça. Ils ont juste un bouton en plus. Voilà. Mais non, il y a plein d'autres cas d'usage. D'ailleurs, plus métier, orienté métier, donc ils sont développés ici et là, il y en a un peu partout. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'en fait, on se rend compte, les administrations se rendent compte que, en fait, c'est pas si simple, c'est pas magique, il suffisait pas de prendre un ChatGPT, de le brancher. En fait, il faut réentraîner les modèles, il faut aussi les, comment dire, pour fiabiliser les réponses, il faut aussi pouvoir les sourcer. Il y a tout un travail qui a été fait par la direction du numérique, de l'État, justement, pour aller sourcer les réponses, ce qui est déjà un premier gage de fiabilité, même si la réponse, elle n'est pas 100% correcte, au moins, on peut aller vérifier à la main en cliquant sur le lien, quoi.
Et est-ce qu'il y a un projet, toi, que tu veux absolument mettre en avant? Est-ce qu'il y en a un qui te marque plus que les autres? Ou pas plus que
Ah, en
ça?
fait, il n'y a pas de cas d'usage pour l'instant très transformateur. Comme je disais, en fait, les administrations, elles tâtonnent. Et surtout, elles se sont bien rendues compte que c'est pas magique et qu'en fait, il y a un gros potentiel parce que l'État, par nature, il traite des tonnes de documents et d'écrits, de notes, de circulaires, de dossiers administratifs, de formulaires, etc. Donc, il y a un potentiel. Mais en fait, il y a un peu un retour à la réalité où on se dit que on va plus créer des petits assistants qui vont faire gagner du temps sur certaines tâches ici et là. Plutôt qu'automatiser complètement toute une mission, d'ailleurs tout un poste d'agent public. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas supprimer des agents publics comme ça. C'est que ce sera plutôt un outil en plus, comme le correcteur orthographique, c'est la direction du numérique de l'État d'ailleurs qui avait un peu cette formulation-là. Donc, on va mettre ça dans la besace de l'agent public. Il aura sa petite fonctionnalité. Il saura d'ailleurs peut-être même pas que c'est de l'IA derrière, mais il aura ça.
Ok, donc l'objectif du gouvernement, c'est vraiment d'apporter des petites touches comme ça au fur et à mesure et pas de tout révolutionner ou de tout chambouler dans les services publics avec l'IA. C'est un fantasme qu'on entend souvent hein, quand on parle d'intelligence artificielle et services publics, on se dit tout de suite, ah ça y est, ils vont remplacer les agents. Non, il faut un peu démystifier ça. C'est des petites touches qui vont aider les agents.
Oui, c'est ça. Là, ce que je me disais, c'est un petit outil en plus dans la besace. Alors après, il y a des cas d'usage au métier avec plus ou moins de potentiel. Là, ce qui ressort le plus et ce qui revient souvent dans mes échanges avec les administrations, c'est aussi parce que c'est les DSI qui mettent en œuvre les projets, mais en fait, c'est souvent des projets pour les DSI elles-mêmes. Donc, par exemple, pour débugger les applications, pour traduire du code, pour faire de la documentation informatique, mais enfin de code, mais a posteriori, voilà, il y a des gisements de productivité et un peu partout. Mais pour l'instant, c'est pour ça aussi qu'ils y ont ta tendance, c'est qu'ils n'ont pas encore une idée précise de ce que ça va leur faire gagner. Et d'ailleurs, ils n'ont pas une idée précise de est-ce que ça vaut le coup. Même s'il y a déjà une plus-value, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le déployer à grande échelle? Parce que mine de rien, ça a un coût en serveur, GPU, etc. Et donc là, typiquement, les impôts qui ont exploré assez rapidement, parce qu'ils ont des moyens, pas mal de cas d'usage, là, ils sont un petit peu arrivés à un stade où ils se demandent qu'est-ce qu'on déploie à grande échelle? Par exemple, ils avaient leur outil d'amendement là qui a été rendu public il y a quelque temps, où en gros c'est un outil interne hein, qui permet de réattribuer en gros quand il y a des examens de projet de loi. Donc là c'est surtout sur le projet de loi de finances parce que c'est un gros texte avec des tonnes d'amendements de parlementaires qui arrivent un peu au dernier moment et qu'il faut traiter très rapidement en 48 heures je crois. Donc généralement c'est un travail que les agents du bureau de la législation fiscale ils font ça la nuit pour réattribuer au bon service pour que eux-mêmes évaluent les amendements et ensuite ils trouvent une réponse pour que le gouvernement y réponde lui-même plus tard. Et donc cet outil-là, l'amendement, ils l'ont développé, il est efficace. Alors il y a des marges d'erreur encore aujourd'hui, mais en fait qui correspondent à peu près à ce que fait un humain en termes à la fois d'attribution de l'amendement vers le bon service et de résumé, parce qu'il y a un petit résumé automatique qui est fait aussi, qui va servir typiquement au ministre ou aux personnes qui participent aux réunions interministérielles qui vont permettre d'arbitrer sur quelle suite on donne à tel amendement. Et donc ça... donc ça permet de faire ce travail-là en très peu de temps, mais ça consomme beaucoup. Et donc ils ont un questionnement sur est-ce qu'on l'active pour tous les projets de loi ou pas, est-ce qu'on le met dans les mains de tous les agents. Et donc, pour l'instant, cet outil-là, ils l'ont activé à un moment pour qu'il fasse son travail rapidement, mais après ils l'ont pas réutilisé quoi.
Justement, c'est intéressant cette question du coup. L'IA, ça coûte super cher. On s'en rend pas forcément compte comme ça, mais ça consomme énormément d'énergie. L'énergie est bien chère ces derniers temps. Tout le monde le sait. Ça demande des serveurs, du cloud. Si derrière, en plus, c'est une IA qui est développée en interne, alors là encore, c'est des ressources immenses, sans parler des quantités phénoménales de données nécessaires. Bref, ça a un coût assez incroyable. Est-ce que tu penses que les moyens sont là pour justement développer l'IA dans l'administration? J'ai vu en préparant l'épisode qu'il existait un comité de l'intelligence artificielle qui avait appelé l'Élysée en mars à investir 10 milliards d'euros dans l'IA dans l'administration.
C'était la fameuse commission qui avait été installée par Elisabeth Borne au moment où justement il y avait un petit peu le boom de l'IA générative. Au final, ça s'est un peu transformé en comité IA au global. Mais donc, ouais, ils appelaient à un investissement massif. Et pour le coup, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est qu'ils appelaient à 10 milliards d'euros d'investissement. C'est à peu près, c'est exactement le coup de rabot que Bruno Le Maire avait annoncé sur les dépenses publiques. S'ils arrivent à estimer que ça fait des gains de productivité et que ça permet de supprimer des emplois ou en tout cas de dépenser moins, peut-être que ça permettra de justifier d'investir ces 10 milliards-là. Mais bon, voilà, ça c'est une somme considérable, je pense pas qu'ils l'auront. Et donc, ils auront des financements, c'est sûr, il y en a déjà, mais l'avantage aussi de l'approche qui est pour l'instant retenue, c'est qu'il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de plan sur la comète, il n'y a pas de grande stratégie IA pour le service public. C'est beaucoup d'expérimentation un peu partout. Et il y a aussi un objectif de mutualisation avec la direction du numérique de l'État qui travaille sur un modèle un peu adapté spécialement pour la fonction publique, mais qui reste assez généraliste. Et en fait, l'idée, c'est que ensuite, chaque administration réutilise ce modèle-là et éventuellement le refine-tune sur leurs données, etc., à leur cas d'usage précis.
Mais c'est justement, en parlant de modèle éventuellement interne, il me semble, tu vas peut-être me dire que je me trompe, mais que pour l'expérimentation lancée en octobre, il y a eu l'utilisation, c'est quoi? C'est un modèle d'Anthropic, une entreprise américaine qui a été utilisée, non?
Alors, au départ, c'était un modèle d'Anthropic parce que, de ce que j'ai compris, il voulait se lancer quand même assez vite. La DINUM, donc direction numérique, avait déjà lancé en parallèle son projet là d'Albert, mais ils ont changé très vite en fait. Donc l'expérimentation commence en octobre et je crois qu'en novembre ils ont migré sur Mistral. Ils ont changé le modèle pour que ce soit du ouvert et du français.
Il y avait une question un enjeu de souveraineté là aussi. C'est vrai que sur un sujet aussi stratégique, de passer par une entreprise américaine. Alors tu l'as dit, maintenant ils sont chez Mistral qui est français, une entreprise française, donc. Ça, c'est un peu plus compréhensible, mais ça aurait pu faire grincer quand même des dents. Et Albert, qui est le projet d'IA générative libre et ouvert et souverain, etc., de la DINUM, c'est ça?
Ouais.
Ok.
Alors après, leur approche, c'est de construire un peu toute une gamme. C'est pas un modèle. Hein. Ils ont pas redéveloppé un modèle de langue généraliste. Hein. Ils ont repris des modèles existants, donc Llama 2 de Meta, Mistral, mais pas que. En gros, l'idée, c'est d'avoir une sorte de boîte à outils et puis ensuite les administrations peuvent changer de LLM puisque le but typiquement d'ailleurs on l'avait vu avec Mistral mais Mistral fait des deals avec avec, je sais plus si c'était Amazon ou Microsoft.
Microsoft.
Donc voilà, enfin, rien ne dit que demain Mistral sera peut-être complètement fermé, peut-être à un coût exorbitant, etc. Et donc eux, leur idée, c'est de au moins de pouvoir changer de modèle un peu facilement et d'être à un minimum en maîtrise et un minimum indépendant.
Oui, prudence et mère de sûreté. Et puis on a bien vu ce que ça a donné avec OpenAI par exemple, qui a changé un peu de modèle là-dessus aussi. Parlons un petit peu des risques de nouveau, ce qui va faire écho quand on a parlé des enjeux. Est-ce que les risques ne sont pas quand même trop importants à terme? Encore une fois, on parle de données qui peuvent potentiellement être sensibles, des données de santé, des données d'identité. Ça risque d'être quand même difficile à sécuriser tout ça.
Après, c'est pour ça qu'ils veulent déployer sur leurs propres infrastructures en local et qu'il n'est pas question d'utiliser ChatGPT ou même... Alors après, il y a je sais qu'il y a des administrations qui achètent des licences, par exemple le Copilot de Microsoft, mais généralement, c'est plutôt sur les côtés partie développement, code, etc. Donc, c'est avec des informaticiens qui ont un peu la maîtrise du sujet.
Pour toi, il n'y a pas de risque?
Bah, il peut y avoir un risque, mais a priori, un peu, ils ont le RSSI dans la boucle, le responsable de sécurité des systèmes d'information. Je pense qu'ils savent maîtriser le périmètre. C'est pas un agent lambda qui va décider de verser le dossier d'un usager avec ses infos personnelles dedans.
Ok, donc pas trop de risques pour le moment. On l'a bien vu là, de toute façon, tu l'as bien précisé, l'administration se montre plutôt prudente. Ce sera le mot de la fin. Est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'administration publique constitue un danger, un risque pour l'emploi des fonctionnaires malgré tout? Malgré tout, parce que bon, ils peuvent toujours dire, on promet qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois. Dans les faits, on n'est pas à l'abri.
C'est la grande question. Là, avec le gouvernement actuel, c'est pas l'optique, a priori, en tout cas affichée. Mais rien n'interdit que, oui, en effet, demain, ce que je disais, par exemple, avec le fonds de la transformation de l'action publique, l'idée, c'était d'investir un euro pour un euro de retour sur investissement. Et en fait, les administrations, comme elles avaient du mal à justifier le gain, même s'il y avait un vrai gain potentiel, typiquement avec la détection des piscines, c'était de dire, bah, on va taxer plus de piscines, donc il y aura plus de rentrées d'argent. Mais a priori, pas de suppression d'emplois, mais rien n'interdit qu'un gouvernement plus tard décide de le faire. Et d'ailleurs, au Royaume-Uni, je crois que la couleur a été annoncée comme ça.
Ah oui? Ils ont annoncé des suppressions d'emplois à cause de l'IA.
Ouais, c'était vraiment présenté sur optimisation des coûts. On va pouvoir supprimer des emplois. C'était dit clairement comme ça.
Ok. On verra bien ce que l'avenir nous réserve de ce point de vue-là. On en reparlera peut-être un jour tous les deux. Merci en tout cas pour ton expertise et tes explications, Émile.
Merci.
Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour leurs écoutes et leur fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Et on se retrouve dès la semaine prochaine.
This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.